protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Gilles Daudet. Enfin, c'est plutôt lui qui nous reçoit puisque nous sommes au temple de Pont-de-Montvert. Gilles Daudet, pasteur et ancien président du Conseil régional du Sud-Ouest, délégué à l'œcuménisme auprès de la Fédération protestante de France. Alors bonjour Gilles.
Bonjour.
D'abord, avant de voir un petit peu vos fonctions, on va vous poser des questions sur votre héritage, sur votre parcours protestant depuis l'enfance ou depuis avant vos parents, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre héritage ? Est-ce qu'il y a des protestants dans votre famille ou pas ?
Alors, il y a des protestants, oui, plutôt du côté maternel où les racines descendent de Saint-Jean-du-Gard et des Cévennes. Donc, de ce côté-là, il y a une sorte d'héritage protestant qui s'était un peu délité, qui s'était un peu perdu, qui n'était pas prioritaire dans mon enfance, en tout cas. Voilà. Et du côté paternel, c'était plutôt des libres penseurs de la plaine, on va dire, de la Camargue ou de la petite Camargue, et donc pas grand chose de religieux, mais quand même une vraie attention à l'autre, à l'intériorité, même à la poésie d'une certaine manière aussi.
D'accord, donc un protestantisme lointain, mais quand même présent dans les gènes, enfin dans l'histoire, dans l'héritage.
Oui, ma grand-mère m'a raconté son scoutisme, par exemple.
D'accord.
Et puis mon grand-père revendiquait son protestantisme tout en vendant la Marseillaise sur le marché du village.
Voilà, la Marseillaise, c'est un journal.
C'est un journal qui était d'obédience communiste à l'époque. Oui.
D'accord, merci. Et alors donc, comment vous êtes rentré dans l'action protestante, enfin dans le vraiment dans le militantisme ou dans le... Comment vous avez intégré ce protestantisme pour vous ?
Alors je pense qu'il y avait une petite intégration sociologique parce que mon village était à moitié protestant et que donc on passe devant le temple tous les jours. Ma grand-mère habitait dans la rue du temple, donc voilà, on avait quelque chose comme ça. Ça fait partie du paysage.
C'était où ?
À Vergès.
Vergès, oui, d'accord.
Et puis ensuite, j'y suis vraiment rentré. Spirituellement parlant, on pourrait dire, par effraction, parce que un jour, des amis qui étaient un peu plus âgés que moi et qui se droguaient m'ont annoncé qu'ils avaient été délivrés de la drogue par Jésus, et ça m'a interpellé, et je me suis mis petit à petit à lire la Bible et à me rapprocher, du coup, naturellement, de l'église protestante du village.
D'accord. Donc là, on est dans les années 70 à peu près.
On est dans les années 70, oui.
Donc post-68ard.
Oui, c'était le moment. C'était le tout début du renouveau charismatique. Donc c'était essentiellement des hippies qui découvraient Jésus et donc changeaient de drogue en quelque sorte.
Oui.
Voilà. J'étais pas du tout dans ce mouvement-là moi-même, mais j'étais un peu en marge de la même génération.
Oui, on était forcément influencé par le genre de... Je me rappelle avoir vu des livres comme « Je veux regarder Dieu en face », qui faisait un peu l'apologie du LSD, c'est-à-dire d'une drogue, effectivement. Il y avait un peu ce mélange...
Oui, il y avait cette espèce de mélange, oui. Et puis c'était ce vent de liberté,
oui.
Post-68 et des années 70, quoi.
Oui, d'accord. Mais alors, vous avez réussi à canaliser tout ça, finalement, en allant à la faculté de théologie.
Alors ça, dans un deuxième temps, après avoir réfléchi, après avoir discuté avec mon pasteur ou mes pasteurs, finalement, oui, je suis allé à la fac de théologie à Aix-en-Provence. J'ai pris une année de réflexion d'abord en fac de biologie où j'ai rien fichu d'autre que de réfléchir.
Et, c'est déjà pas mal.
Voilà, et puis je suis arrivé en faculté de théologie à Aix-en-Provence.
Oui, alors pourquoi Aix-en-Provence alors que c'est plus loin que finalement, Vergès, vous êtes plus près de Montpellier, enfin.
Oui, je pense que c'était aussi parce que c'était justement Je pense que ça répondait mieux et que mon pasteur à l'époque avait été très astucieux, je pense. Comment dire, ça répondait mieux à mon cheminement, qui était un cheminement de découverte de la foi. Et au fond, à Aix-en-Provence, il y avait une sorte d'initiation propédeutique, tout doucement, qui se faisait, et de structuration aussi catéchétique.
Oui, parce que vous n'avez pas fait de catéchisme, pas d'études, pas d'école biblique,
non, non,
pas
tout de catéchisme. Ça m'est complètement étranger. Quelquefois, je bénis Dieu de ne pas avoir fait tout ça. Peut-être que ça m'aurait éloigné de lui.
Peut-être.
Et au contraire, ça m'a... Voilà, la découverte a été naturelle, spontanée.
Oui.
Et je dis souvent d'ailleurs aujourd'hui aussi aux protestants qui se désolent que leurs enfants ne les suivent pas dans leur pratique. J'aime bien leur dire que je suis un exemple inverse.
Oui.
Voilà, que plus on a des familles qui sont dites éloignées de Dieu, et parfois finalement on tombe dedans quand même.
Oui, c'est une bonne chose à rappeler effectivement aux auditeurs qui peuvent parfois se désoler de ça. Il n'y a plus beaucoup d'enfants au catéchisme, à l'école biblique, mais bon...
Ce qui est faux et pas partout,
oui,
en tout cas.
Oui, d'accord. Et alors, justement, je voulais soulever un petit peu le problème. Pas d'études donc bibliques, pas de choses comme ça. Vous rentrez à la fac et c'est un petit peu compliqué par rapport à une fac... Disons une fac de philo. André Gounel me disait qu'il avait fait la fac de philo. Bon, il avait l'héritage du lycée, mais la fac de théo, quand on n'a pas suivi justement les cours de, enfin les catéchismes, c'est un petit peu compliqué. Là, vous parlez de cette année, donc qui vous mettait un petit peu au niveau. Alors.
Oui, et puis il y avait quand même, je pense, l'expérience. Forte de ces débuts du renouveau charismatique où la lecture de la Bible était quand même très centrale, et donc finalement, et la spiritualité très présente aussi, et donc finalement ces deux éléments ont été une sorte de catéchisme accéléré biblique. Je suis rentré à la fac de théologie à 19 ans finalement, et j'avais quand même déjà un bon bagage biblique, même si c'était juste le fait d'une lecture simple et discutée avec mes amis.
Oui, on rattrape vite finalement,
voilà.
Quand on est adulte,
jeune
adulte.
Et puis surtout, on n'a pas à faire cette phase que beaucoup de personnes ne font pas, c'est-à-dire passer d'une lecture naïve d'enfant à une lecture critique d'adulte, puisqu'on l'aborde au fond déjà en jeune adulte, et donc on est déjà dans une autre approche du texte et de la littérature biblique que ce qu'on pourrait l'avoir. Voilà, on n'est pas pétri d'histoire en disant d'histoire biblique qu'on nous a raconté enfant et dont on peut dire oh ben je connais déjà.
Ah oui, d'accord. Ben, c'est intéressant ça, parce que ça donne effectivement un autre axe d'approche justement sur l'école biblique, le catéchisme, enfin bon, c'est une bonne chose en soi, mais ça peut être, il peut y avoir des hésitations par rapport au fait que c'est un peu naïf, comme vous dites, que c'est un peu...
Oui, et c'est le risque, je pense, en tout cas, c'est le risque que je sens dans une école biblique ou un catéchisme d'église, c'est que on va raconter l'histoire, et comme on est en phase de découverte, enfin les enfants sont en phase de découverte, on est tenté de simplifier les choses et d'oublier de leur dire que c'est un processus littéraire, qu'il y a derrière une construction, que ce que ça dit n'est pas équivalent de ce que ça veut dire, et toutes ces questions-là. Si on ne les sensibilise pas, les enfants, on ne les prépare pas à une lecture adulte.
D'accord.
Et ils vont rester toute leur vie à une lecture naïve, et donc dire « ça c'est bon pour les enfants, mais pas plus ».
Ok, mais ça, ça vous sert en tant que pasteur
Ah, ça me sert beaucoup, oui.
Ah oui, d'accord. Et vous en avez parlé à d'autres pasteurs, ou dans des réflexions de préparation, de catéchisme, ou de choses comme ça, parce que vous avez un éclairage un petit peu particulier là-dessus?
Oh, je crois pas. Je pense que dans la catéchèse, on essaye d'y faire attention, dans les formations... que l'on fait pour les catéchètes, souvent, on essaye de rendre attentif, justement, à cette dimension-là. Et voilà, on peut raconter, je sais pas, pour prendre un thème caricatural, on peut raconter le récit de la création aux enfants, mais sans oublier de leur dire que c'est un poème.
Oui, oui, d'accord.
Voilà, et pour que au moins ils aient ça dans la tête, et que quand ils grandiront, ils se souviennent que c'est un poème, que c'est pas forcément comme ça
s'est
réalisé.
Bien sûr. Et alors donc, vous faites la fac et vous devenez pasteur aussitôt. Après vos études...
Pas tout à fait, je fais la fac d'Aix d'abord, et puis ensuite je pars en Afrique pendant 2 ans en coopération, et j'aime à dire pour moi que ça a été comme une deuxième conversion, parce que j'étais dans un milieu, dans l'extrême nord du Cameroun, un milieu musulman, à la lisière du Sahel, donc dans un milieu assez isolé, et j'ai à la fois été confronté à un milieu missionnaire plutôt de type évangélique, un peu néocolonialiste, on pourrait dire, d'un côté, et ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de questions interculturelles. C'est aussi le moment où je découvre le monde musulman avec ses richesses, parce que à l'époque cette partie du Cameroun était occupé par un islam très ouvert, très intégré, avec des dialogues forts que l'on pouvait avoir les uns avec les autres. Donc voilà, je découvre l'interculturel, je découvre l'interreligieux, je découvre aussi l'écuménisme, parce que du coup, entre protestants et catholiques, dans ces lieux-là très isolés, la différence, elle devient seconde. Et donc il y a toute cette dimension-là qui fait que quand je rentre, on était aussi, je suis parti, on ne parlait pas encore du sida, on ne parlait pas de l'intégrisme, on ne parlait pas de terrorisme, on ne parlait pas de tout cela, donc il y avait, et quand je suis revenu...
Vous êtes confronté à tout ça.
Je me suis retrouvé confronté à tout ça. Ouais.
Et alors justement, donc vous êtes confronté à tout ça, et est-ce que ça vous conforte dans votre désir d'être pasteur en France, ou est-ce que ça vous rebute un peu ce nouveau monde, ce monde de l'intégrisme, le sida, etc.
Non, ça m'a plutôt, je dirais, ça m'a plutôt stimulé, et en même temps ça m'a réorienté théologiquement aussi. C'est-à-dire au fond, alors c'est aussi une période quand je suis en Afrique où je lis beaucoup Luther.
D'accord.
J'avais eu une formation très calviniste et finalement assez morale, plutôt de tendance évangélique. Autant je découvre avec Luther un protestantisme de la liberté, un protestantisme beaucoup plus critique, qui du coup s'ouvre sur la société sans vouloir forcément la moraliser. Et donc du coup, à ce moment-là, je reprends des études de théologie pendant 2 ans à Montpellier cette fois-ci, et je me nourris de cette expérience-là, et je la théologise, je la réfléchis, je la conceptualise davantage autour justement de l'écuménisme, de l'interreligieux, de la critique, de l'interculturel, etc.
Mais en même temps, là je fais un saut dans le temps, puisque j'arrive quand vous êtes président du conseil régional. Vous dites dans vos mémoires, puisque vous avez écrit quelques lignes sur votre vie,
lignes seulement.
Et vous dites, il ne me reste plus un brin d'illusion ni sur l'Église ni sur moi-même. Alors je trouve que c'est sympathique, parce qu'il y a une recherche de la vérité, mais en même temps c'est un peu désabusé tout ça. Mais on va le retrouver plus tard dans tout ce que vous écrivez. Pourquoi vous n'avez plus un brin d'illusion sur l'Église notamment ?
Parce que j'en découvre la réalité humaine. Quand on part et qu'on est jeune et qu'on part en Afrique, on va évangéliser le monde, quoi. Et puis on se heurte à tout ce qu'on peut se heurter dans le monde de la culture, mais du coup dans le monde de la mission. Donc là déjà, l'idéal missionnaire, il en prend largement un coup. Et puis quand on revient finalement, on a ce regard. Alors c'est pas un regard désabusé en même temps. C'est un regard qui dit au fond que ce qui est beau dans l'être humain, comme dans l'Église, comme dans le monde, comme dans la société, ça nous est donné. Ça nous vient d'ailleurs. Et ça suscite du coup l'émerveillement. mais en même temps ça rend très lucide du coup sur l'être humain quoi.
Oui, vous parlez du temps de l'émerveillement, que la grâce abonde. Donc vous citez Romains chapitre 5, donc la grâce qui abonde. C'est un thème central chez vous, cette idée. Alors c'est un peu Luther ça quand même, cette idée de la déchéance de l'homme. C'est aussi Calvin d'ailleurs.
Oui, c'est aussi Calvin.
C'est aussi Calvin. La déchéance de l'homme et puis en fait que c'est la grâce qui surabonde, qui sauve. Et donc ça se contrebalance un peu sans arrêt chez vous.
Oui,
deux choses.
C'est une sorte de dialectique qui est là. En même temps, je ne sais pas si j'emploierais le mot déchéance, péché ou je ne sais quoi. Je sais pas comment dire ça. L'être humain est ce qu'il est avec ses ombres et ses lumières.
Ouais.
Et il faut le prendre tel quel, et il faut l'accepter, et y compris d'abord soi-même, avec ses ombres et ses lumières. Et c'est finalement l'étincelle de la grâce qui donne ce petit plus inattendu, inouï, assez surprenant, qui fait que ce qui est anormal, finalement, ce qui est impossible devient possible quand même.
D'accord. Il y a toujours cette idée de la grâce. Mais c'est quand même assez jeune que vous découvrez ça finalement, que vous avez cette lucidité. C'est ce qui m'étonne un petit peu dans votre parcours, parce que ça, c'est ce qu'on entend chez des gens de notre âge maintenant, qui disent oui, l'être humain finalement, il est ce qu'il est, il faut le prendre comme il est, etc. Mais vous le découvrez assez tôt, j'ai l'impression.
Oui, voilà. C'est là que je dis que l'expérience africaine a été assez déterminante pour moi de ce côté-là. Parce que, oui, j'ai été mis le nez sur la nature humaine, dans ce que je croyais être d'une certaine manière le meilleur de la nature humaine. Et au fond, plus on avance dans le meilleur de la nature humaine, plus on en découvre aussi ses côtés pervers.
D'accord.
Et finalement on est à la fois émerveillé et rendu lucide et quelque part un peu sans illusion aussi.
Et ça, vous l'avez vécu en tant que président du conseil régional, c'était difficile, c'était de se dire qu'on gère finalement une institution plutôt que d'annoncer l'évangile. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais été président du conseil régional, mais je suppose que le boulot d'un président, c'est quand même de gérer les gens, donc de prendre des décisions difficiles parfois.
Oui, mais c'est en même temps, alors je dirais pas qu'on gère une institution, on est au cœur de la communauté humaine. Et comme on est dans un lieu de responsabilité, j'allais dire un peu comme un DRH dans une entreprise, où on est encore plus au cœur de la patte humaine, et donc on voit encore plus, si je puis dire, cette ambivalence de l'être humain tel qu'il est, et qui fait à la fois sa richesse et sa pauvreté, et tout le travail au fond d'un président de conseil régional ou d'un conseil régional dans son ensemble, c'est comment faire vivre ensemble cette communauté d'humains avec leurs ombres et leurs lumières pour que là, l'espace de l'émergence de la grâce puisse se faire, quoi.
D'accord. Alors, on va voir maintenant un petit peu au niveau de votre parcours personnel. Là, on a un petit peu vu par rapport votre vision par rapport au monde qui vous entourait, à l'Église. On va voir un petit peu plus profondément, si vous le voulez bien. Mais d'abord, on va écouter un morceau de musique. Vous nous avez choisi la cantate BWV 35 de Bach, le premier mouvement. Alors, nous écoutons ce morceau de musique. Thank you. Nous retrouvons Gilles Daudet, donc après avoir évoqué la présidence du conseil régional et puis plus largement son analyse sur le monde qui l'entourait. Ensuite, je viens à vos problèmes personnels que vous avez évoqués dans vos mémoires. Et vous parlez donc que ça vous a entraîné un échec de l'image de soi. Et là, je retrouve un petit peu, mais encore plus fort, une sorte de lucidité sur vous-même assez importante.
Oui, et quand on traverse des déchirements familiaux, pour le dire comme ça. Oui, au fond, peut-être que jusque-là, jusqu'à cette période-là, au fond, c'est l'être humain en général sur lequel... je découvre cette ambivalence dont je parlais, et puis là tout à coup je la découvre en moi-même, et donc on prend des claques, et puis le bon pasteur, bon père et bon mari s'écroule, et donc qu'est-ce qui reste, et comment à ce moment-là pouvoir se reconstruire? Et il reste effectivement pour moi il est resté la théologie, il est resté l'amitié et l'Église, voilà, il est resté aussi d'une certaine manière l'importance du compagnonnage dans ces moments-là, pour ne pas être en quelque sorte tout seul. Et donc là aussi j'ai découvert à la fois ma propre misère humaine et la grâce de pouvoir à la fois prendre du recul sur soi-même avec la théologie, etc., et avec aussi le compagnonnage d'autres qui sont là autour de vous et qui vous écoutent, vous accompagnent, vous conseillent, que ce soit le psy ou bien les amis ou bien les gens l'église. De la paroisse, l'Église, voilà.
Et c'est là où on retrouve le rôle de l'Église qui est second, comme on dit, mais pas secondaire, dans le sens où c'est l'Église pour les protestants, donc c'est pas un intermédiaire entre Dieu et le croyant, mais c'est la communauté qui aide, qui parfois donc peut aider à remettre l'homme debout en même temps que la grâce de Dieu.
Oui, et puis voilà, ce que j'allais dire, c'est que l'expérience... c'est aussi l'Église comme lieu de gratuité. Bon, tu as foiré, mais on t'accueille quand même.
D'accord.
Et même, on prend soin de toi. Et même, on t'accompagne. Et on t'écoute. Et ça, il y a, je pense, pas beaucoup de lieux où ça se produit. Mais dans l'Église, on le trouve.
Oui.
Et pour moi, ça, c'était alors pour le coup on peut dire que je suis lucide sur où j'ai été lucide, où j'ai acquis de la lucidité sur le côté retors de l'être humain, y compris dans l'Église. Autant là, je découvre aussi une forme de grâce qui émerge de la vie de l'Église.
D'accord. C'est-à-dire que la communauté qui parfois effectivement émerge avec ses problèmes, ces êtres humains qui sont pas toujours sympas, qui sont pas toujours là, ça devient quelque chose de différent. Et pourtant, ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes.
Exactement. Et de la même manière que l'individu peut être retors, l'Église, l'individu au sens de l'humanité au sens collectif du terme finalement,
oui.
L'Église c'est une assemblée d'individus, c'est peut être aussi retors, mais peut émerger aussi tout autant une gratuité, une lumière, une chaleur qui vous permet de ne pas couler, si je puis dire.
Et puis c'est la maladie juste après, ou très peu de temps après.
Ah non, il faudra attendre quand même encore Oui, presque une vingtaine d'années pour que, effectivement, dans d'autres circonstances, le cancer des cordes vocales, notamment, va m'atteindre. Mais finalement, là aussi, l'expérience de la communauté, l'expérience de l'accompagnement humain, simplement humain, est assez beau à vivre, je trouve. Peut-être parce qu'on l'a travaillé avant, peut-être que parce que justement on est inséré dans une communauté, cela peut se produire. En même temps, je peux aussi témoigner d'autres personnes qui n'ont pas trouvé dans l'Église cet accompagnement-là, oui. Justement,
oui, oui.
Qu'elles auraient pu trouver. Moi, il se trouve que je l'ai reçu, je l'ai trouvé, je l'ai...
Peut-être parce que vous étiez moins exigeant vis-à-vis de la nature humaine, non ? C'est peut-être vous qui avez mieux reçu... les autres en face que les gens qui ne le reçoivent pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ou c'est une question à double face, enfin c'est les deux parties, vous-même et puis les autres qui sont en cause.
C'est difficile de savoir ça,
ouais.
Et de dire le pourquoi de cela, je ne sais pas, je pourrais pas...
Oui, bien sûr. De toute façon, personne ne peut répondre. C'est une question de circonstance aussi. Et alors, ce cancer des cordes vocales pour un pasteur, pour un ministre de la parole, comment vous l'avez vécu ?
Oui, et puis en plus avec une formation musicale et vocale. Donc, chanter et parler, c'était mon métier en quelque sorte.
Ah.
Et voilà. Bon, je l'ai vécu comme... Comme, dans un premier temps, comme un choc difficile à vivre, parce que voilà, quand le chirurgien vous dit, de manière, sans s'en rendre compte d'ailleurs ce qu'il disait à mon avis, vous pouvez mettre une croix sur votre ministère, c'était assez, et c'était, il s'est pas rendu compte, et en même temps c'était très prophétique, c'est-à-dire au fond... passer par l'acceptation de sa propre faiblesse et de sa propre... Quelque part, c'était une forme de renoncement à soi-même.
Oui, c'est vraiment le symbole de la croix.
Oui, pour le coup, qu'il annonçait sans s'en rendre...
Sans s'en rendre compte.
Alors, absolument pas. Mais j'ai trouvé que c'était finalement... du coup, il m'a mis en chemin et accompagné encore une fois par les uns et les autres... y compris en famille, c'était un moment clé d'une sorte d'apprentissage pour vivre comme pasteur en particulier avec ses propres failles, avec ce que l'on est, avec sa propre misère, avec ses propres cassures, et apprendre à vivre avec ça, y compris dans son propre ministère, quoi.
Mais vous n'avez pas renoncé, vous n'avez pas douté de la grâce de Dieu.
Oui, je peux dire que j'ai douté. Comment, moi, forcément.
Oui,
On est au fond, on ne sait pas, on peut plus parler, on a des trous dans la gorge partout, on ne sait pas ce qu'on va récupérer comme voix, comme énergie aussi pour assurer un ministère, un service. Donc tout est remis un peu en cause et en même temps, j'allais dire aussi la prise de conscience qu'on est dans un lieu privilégié. C'est-à-dire j'ai été soigné dans le meilleur hôpital de Marseille avec le meilleur chirurgien pour ces questions-là. J'étais dans une communauté paroissiale, j'allais dire une des meilleures, tant pis pour les autres, et accompagné comme cela. Donc je veux dire, j'étais en même temps, je pouvais confortablement me remettre en cause. Je n'étais pas justement au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Sahel, où de toute façon je n'aurais pas pu être opéré et je serais mort d'un cancer qui se serait généralisé. Donc j'ai aussi pris la mesure de cette richesse humaine qui m'entourait, que ce soit familialement, médicalement, ecclésialement, amicalement. Voilà, c'est
et,
ça,
et ce
c'est
protestantisme
aussi...
donc qui vous a soutenu, là vous dites que vous en découvrez l'originalité et en même temps vous avez un petit peu peur de l'avenir. Enfin, vous avez l'impression que... Comment vous voyez l'avenir du protestantisme français? Comment vous voyez l'avenir de cette communauté qui vous a aidé et qui est très minoritaire et qui est... presque, je ne sais pas s'il est en danger, mais on a l'impression parfois que le protestantisme est trop intégré et qu'il se délite. Comment vous le voyez-vous? Justement avec votre expérience de la souffrance telle que vous l'avez vécue.
Je pense qu'il y a un message assez spécifique du protestantisme qui a sa place dans la société, et d'ailleurs à laquelle beaucoup de nos contemporains sont sensibles. À Aix-en-Provence, où j'étais pasteur jusqu'à cette année, le protestantisme tel qu'il est vécu dans notre Église protestante unie, ce protestantisme, je ne sais pas comment le qualifier, d'ouverture, de la gratuité, de la grâce, d'une forme d'intelligence aussi, dans son appréhension, dans son questionnement, justement, qui garde le questionnement ouvert. C'est un mode de pensée, de spiritualité qui intéresse beaucoup de nos contemporains. Et j'ai vu en quelques années, très concrètement, alors pour le coup, dans une ville comme Aix-en-Provence, comment finalement ce protestantisme avait une chance. Alors peut-être qu'il n'intéresse pas tous nos contemporains, et ça c'est leur liberté de cheminer ailleurs, mais en tout cas il intéresse toute une frange de nos contemporains, que ce soit ceux qui viennent de l'étranger et qui découvrent une autre forme de protestantisme qu'ils ne connaissaient pas et dans laquelle ils trouvent leur nourriture, leur substance, mais aussi pour nos contemporains qui viennent de l'athéisme, de l'agnosticisme, de sphères déjà religieuses, diverses et variées, d'autres confessions. Ils découvrent là une manière de vivre l'évangile qui les intéresse. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on dit, le protestantisme n'est pas en voie de déliquescence,
ouais,
mais qu'il a un boulevard devant lui.
Mais c'est aussi le phénomène minoritaire, peut-être. Peut-être que le protestantisme français a des atouts par rapport au protestantisme américain, par exemple, ou d'autres pays, parce qu'il est minoritaire. Il est toujours aussi du côté, forcément par son histoire, du côté des victimes, du côté des minorités, forcément. Est-ce que ça vous... ou non? Ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'importance?
Je pense que l'aspect minoritaire peut, du coup, effectivement, le placer au carrefour de beaucoup de situations qui font que on ne le craint pas, il va pas devenir une
sorte de
religion qui va s'imposer d'elle-même, sans doute aussi. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a un orgueil protestant infini qui est très pénible.
Ne donnez pas de nom.
Je donnerai pas de nom, qui est très pénible à supporter, fier de son histoire, fier d'avoir été persécuté. Et ça coûte pas cher de l'être quand c'est pas soi-même qui l'a été, mais nos prédécesseurs, et qui s'enferme dans cette histoire-là. Je pense que ce protestantisme-là n'a aucun avenir, pour le coup, et qu'il va continuer alors à mourir tranquillement, et j'allais dire presque, c'est d'une certaine manière presque tant mieux s'il ne sait pas tirer les leçons de son histoire, justement en termes d'ouverture, en termes d'accueil gratuit et inconditionnel de la personne, en termes de valoriser l'intelligence quand on lit ces écritures qui sont d'une ouverture et d'universalité incroyable que l'on peut cultiver et qui peut rencontrer le monde entier. Voilà. Et je pense que s'il perd ça, alors oui, il mourra. Mais il y a un protestantisme assez intelligent pour ne s'enfermer ni dans le fondamentalisme d'un côté, ni dans l'hégémonisme orgueilleux de l'autre. Et je pense que, alors pour le coup, lui, il a une voix intéressante.
D'accord. Donc, vous donnez un petit peu un avertissement aux protestants français, enfin au protestantisme français, de façon légère, hein, bien sûr, mais par rapport à son orgueil, à son histoire, à ses revendications de persécuter.
Oui, je dis que son histoire a fait son identité,
ouais.
Elle lui est propre et elle a forgé sa théologie aussi. Donc on peut pas juste jeter l'histoire.
Oui.
Mais il faut en tirer, je pense, la substantifique moelle et pour ne pas transformer l'identité en identitarisme, je sais pas si ça existe comme
ça. On peut l'inventer. Voilà. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens quand même de milieux qui ne sont pas protestants d'origine et qui rejoignent le protestantisme, ça doit aider quand même à justement dégager un peu cet orgueil, enfin à nettoyer un petit peu cet orgueil.
Oui, tout à fait.
En fac de théologie, on rencontre beaucoup de je crois même que c'est pratiquement majoritaire, d'étudiants qui ne viennent pas de milieux, de familles protestantes, d'héritage protestant.
Oui, actuellement, les sociologues nous disent bien que le protestantisme, de toute façon, ne se renouvelle pas de l'intérieur, mais par des apports extérieurs.
Donc la grande leçon, c'est toujours l'ouverture aux autres, de permettre aux autres de venir dans le protestantisme et afin de s'enrichir de leurs expériences, finalement.
Oui, mais l'ouverture juste, c'est-à-dire l'ouverture ou l'ouverture vraie. Il peut y avoir une ouverture tactique qui, à mon avis, elle finit par se découvrir facilement. Et puis, il y a l'ouverture, je dirais, qui est dans l'accueil gratuit, inconditionnel de la personne et des personnes, mais aussi de la société, enfin de la pensée, du questionnement de nos sociétés. Cet accueil-là, s'il est réellement gratuit et honnête, il porte du fruit.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Daudet. Je me doute que ça a été difficile un peu pour vous de parler comme ça. Et puis, on a quand même évoqué des souvenirs un petit peu douloureux. Alors, merci beaucoup. Et puis, je remercie nos auditeurs qu'on retrouve la semaine prochaine à Un protestant peut en cacher un autre. Au revoir à tous.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.